On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 36e de l'année, de la saison 36. On salue les auditeurs de l'Indre, pourquoi pas. Et on en profite pour souhaiter bon courage à tous les supporters de la Berrichonne de Châteauroux, dont on sait officiellement depuis cette semaine que le club présidé par Michel Denisot et entraîné par Marco Simonet jouera en National la saison prochaine. RTL Foot à 20h, 20h, 23h bien évidemment. Toujours plus de foot, de news et de débats. Mais dans l'immédiat, c'est On fait le match, VIP ce soir avec Pascal Garibian. Bonsoir Pascal Garibian.
Bonsoir.
Directeur technique de l'arbitrage français. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Votre parole est rare Pascal Garibian, mais nos questions sont très nombreuses. Pour vous interroger jusqu'à 19h, on a l'impression d'être au grand jury RTL, Le Figaro LCI. Philippe Sanfourche, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Chef de la rubrique bonsoir, football Pascal. De RTL. Baptiste Després, tiens, du Figaro justement. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
À 19h, pour les débats dont fait le match, nous rejoindrons Cindy Colmenares, Florian Gazan et Gilles Verdez. Pour tous les débats donc dont refait le match, le football court-il à sa perte? La Super League superbide? Mais pour combien de temps? Attention, les Girondins de Bordeaux seront-ils rayés de la carte du football français? Rendez-vous à 19h. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, émission 100% interactive, filmée sur RTL.fr ou via l'application et tous vos messages relayés. Ils seront nombreux, je n'en doute pas un seul instant ce soir, par Baptiste Durieux sur le compte Twitter @RTLFoot. Il y a également du direct à 4 jours de PSG City. Le PSG joue actuellement à Metz. Dimitri Ramelot, bonsoir.
Bonsoir Christian. Un quart d'heure encore à jouer, 13 minutes pour être précis, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, Mbappé à la 5e. 111 avait égalisé à la 46e juste à la reprise de la 2e période. Mbappé encore lui pour son 25e but de la saison en Ligue 1, marqué à la 59e minute. Di Maria vient d'entrer, donc Mbappé, Di Maria et Neymar sont là. Marquinhos n'est pas venu et Cardier sur le banc.
Et tout va bien avec l'arbitre de la rencontre, monsieur Delageau.
Pour l'instant, tout va bien. 2 cartons jaunes, dont un à Verratti. Voilà, rien de spécifique à signaler au niveau de l'arbitrage de cette rencontre.
Pascal Garibian qui regarde ce match, évidemment, d'un œil très acéré. Match de 13h. Saint-Etienne s'est incliné à Geoffroy Guichard face à Brest 2-1. Doublé de Charbonnier, but de Cazerie pour les Verts qui avaient ouvert le score en Ligue 2 cet après-midi. 3 a battu Grenoble sur le score de 3-1. Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage français depuis 2013. Vous m'arrêtez si je me trompe. 60 ans, ex arbitre international, une quantité de matchs de Ligue 1 également, une expérience terrain absolument incontestable. Il y a eu Robert Wurtz, il y a eu Michel Vautreau, il y a eu Joël Quignou. Dans le paysage de l'arbitrage français, il y a aussi Pascal Garibian qui a été également consultant arbitrage de RTL. Il y a pire comme présentation, n'est-ce pas Pascal?
Oui, effectivement. C'est...
Ce que le grand public sait peut-être un peu moins, c'est que vous avez été officier de police pendant de très 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 nombreuses années et le tout premier porte-parole de la Direction générale de la police nationale. J'imagine, Pascal Garibian, que vous devez avoir un sentiment fort, particulier, un peu le cœur lourd d'ailleurs, car vous entretenez aussi peut-être, sans doute même, encore un lien avec votre corps d'origine dans ces moments douloureux où, malheureusement, c'était hier, une fonctionnaire de police a été assassinée au commissariat de Rambouillet.
Bien sûr, bien sûr. Mon cœur de métier, hein, j'ai été 24 ans dans la police judiciaire, puis après dans la communication et oui, j'ai encore des liens avec mes collègues et chaque fois qu'un policier est atteint dans sa chair ou tué, malheureusement, ça nous affecte comme tous les policiers de France. Et bien sûr, toujours très impliqué dans le suivi de nos collègues sur les terrains qui exercent un métier toujours de plus en plus difficile.
Toujours dans le suivi police chahutée, police violentée. Vous avez encore des contacts avec vos anciens collègues?
Oui, bien sûr, sur un certain nombre et... Comme je vous le dis, tout le monde le sait, c'est un métier de plus en plus difficile et ils ont besoin du soutien de tous les Français.
Allez, on en vient à notre actualité. L'actualité football, Pascal Garibian, foot arbitrage. On parlera de la VAR dans un instant, ne vous inquiétez pas, c'est promis. D'abord, l'actualité de la semaine, actualité, on va dire, heureuse pour l'arbitrage français. Philippe Sanfourche.
Oui, avec l'annonce de la participation de Stéphanie Frappard au prochain Euro. Elle a toujours donné satisfaction à chaque fois qu'elle a gravi un échelon, que ce soit dans le football féminin, avec évidemment l'apogée avec la Coupe du Monde féminine, mais également en Ligue des Champions masculine. Désormais, elle va arbitrer, elle est dans le groupe en tout cas des arbitres sélectionnés pour l'Euro. Ça, c'est une vraie victoire de l'arbitrage français, entre guillemets, d'avoir justement une représentante française parmi les hommes.
Oui, et puis n'oublions pas d'abord Clément Turpin qui est sélectionné avec ses assistants vidéo. Et Stéphanie, effectivement, est la première femme qui participera à l'Euro. Comme tous les collègues qui sont présents dans ces grandes compétitions, c'est une récompense de leur travail, c'est une récompense du travail de la direction de l'arbitrage. Et c'est vrai que nous sommes présents sur les grandes compétitions, sur tous les tours de Coupe d'Europe. Et c'est essentiel pour susciter aussi derrière des vocations.
C'est un phénomène mondial, hein, Stéphanie Frappart. Quand on regarde un petit peu sur les réseaux, la presse, de l'Indonésie au Brésil, en passant par les pays anglo-saxons, elle est, logiquement ou pas, c'est normal en fait, elle est pionnière, toujours regardée de très près ses prestations. Est-ce que pour vous, c'est une forme de fierté quand même d'avoir permis justement à une femme d'arriver au sommet ?
Tout à fait. Nous sommes très fiers du parcours de Stéphanie Frappart. Les uns les autres, nous avons pu détecter son fort potentiel. Nous lui avons fait confiance. Elle nous a fait confiance. C'est un apprentissage saison après saison. Elle n'a pas franchi trop vite certaines étapes. Par contre, elle a été là au grand rendez-vous avec cette charge émotionnelle, justement ce suivi de tous les acteurs, des médias, et elle a toujours répondu présente, c'est sa force.
Baptiste Després.
Philippe évoquait à juste titre le phénomène mondial autour de Stéphanie Frappart. Est-ce qu'elle peut devenir la meilleure arbitre du monde ?
Écoutez, il n'y a pas de classement de meilleur arbitre du monde. Il y a des jugements des uns des autres. Elle a été reconnue comme meilleure arbitre féminine hein, par l'association des journalistes, etc. Mais voilà, pour un arbitre, c'est les désignations sur les grandes compétitions, sur des matchs importants. C'est ce qui fait que on est reconnu parmi les meilleurs.
Alors j'ai été frappé par une chose cette semaine avec Stéphanie Frappart. Lyon-Monaco, match de Coupe de France. Bon, ça n'a pas été son meilleur match d'arbitrer, mais on ne va pas s'amuser à renoter les prestations des arbitres. On n'est pas là pour ça. Ça n'a pas été malgré tout son meilleur match. Je réponds d'une certaine façon à tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, nous envoient des messages en disant « Dites à Pascal Garrigan qu'elle n'a pas le niveau ». Bon, elle a le niveau, ça on le sait, on évacue le sujet.
Alors, non seulement elle a le niveau, et puis je ne suis absolument pas d'accord sur votre évaluation de sa performance en Coupe de France. Elle a fait un match dans des conditions difficiles. Les décisions importantes, elle les a prises, elles sont tout à fait justes. On peut regretter le comportement par moment des joueurs.
Exactement.
S'ils ne l'ont pas mis dans les meilleures conditions, voilà. Mais elle n'a jamais reculé, elle n'a pas cédé et elle a pris encore une fois les décisions qu'il fallait.
On est bien d'accord, mais c'est ce qui m'a frappé effectivement. C'est cette forme d'intimidation des joueurs costauds. Bon, Stéphanie Frappart a un petit physique. On avait eu trop l'habitude de voir les joueurs entourer les arbitres à une époque, peut-être un peu moins désormais. Et là, ils sont revenus en mémoire des images qu'on ne devrait pas voir. Sauf que là, pour le coup, il ne s'agit pas de faire du féminisme à 2,50 €, mais autour d'une femme comme ça, ça m'a gêné.
Oui, je comprends, mais Stéphanie, elle ne souhaite pas, et nous ne voulons pas qu'elle soit regardée comme une femme arbitre. C'est une arbitre de haut niveau. Encore une fois, elle le prouve sur les grands événements. Bien sûr, comme tous les arbitres, par moments, elle peut se tromper. Et elle est capable de les corriger avec l'assistance vidéo quand elle a la possibilité. Mais sur ce match comme sur les autres, c'est une arbitre de haut niveau. Elle manage à sa manière parce que nous ne souhaitons pas non plus avoir que des arbitres qui managent de la même manière. Nous ne souhaitons pas avoir de robotisation de l'arbitrage. Et sur ce match-là, elle a été particulièrement forte. Et encore une fois, je le rappelle, elle a pris les bonnes décisions.
Il y a quelque chose qui nous plairait ici, évidemment, c'est de voir les arbitres équipés de micro. Et si au moins hein, Stéphanie Frappart, Philippe Sansfourche avaient été équipés d'un micro ce soir-là,
on aurait tout entendu.
On aurait compris notamment l'exclusion de Rudy Garcia.
Alors c'est ça, puisqu'on rappelle que durant cette rencontre, Rudy Garcia a été exclu et monté en tribune assez rapidement dans la rencontre suite à une intervention auprès du quatrième arbitre. Rudy Garcia, derrière, il est en conférence de presse. Donc lui, il peut faire passer ses messages. Il peut dire, on le croit ou on ne le croit pas, mais en tout cas, on n'aura jamais la preuve, qu'il a eu des mots tout à fait normaux, que simplement, il voulait être dans l'explication et que finalement, Stéphanie Frappart a fait preuve de rigidité en ne souhaitant pas échanger, mais en prenant une décision tout de suite radicale. Dans la mesure où on ne l'entend pas répondre, où on n'entend pas le micro... quelque part, c'est un peu à sa décharge. C'est-à-dire que ça la met dans une situation où on est obligé de croire Rudy Garcia ou alors d'être dans le doute.
Non. Encore une fois, ne mélangeons pas tout. Et puis, vous le savez très bien que si je suis un homme de dialogue, je ne m'inscris pas dans les polémiques. Donc, je ne polémiquerai ni avec Lyon, ni avec Rudy Garcia.
Explication, pas polémique.
Explication, non. Encore moins dans l'exemple que vous prenez, puisque c'est la commission de discipline qui va juger ce qu'il en est de la justesse de la décision. D'ailleurs, le quatrième, je tiens à rappeler, c'était Jérémy Stina, ancien joueur professionnel. Et effectivement, c'est lui qui a, dans un premier temps, appelé Stéphanie pour un carton jaune. Et puis, compte tenu que le comportement continuait à être répréhensible, c'est passé au rouge. Mais voilà, la commission de discipline va juger du bien fondé. Et les arbitres, comme la direction de l'arbitrage, n'est pas là pour commenter ce type de décision.
Vous préférez qu'on reste dans le secret ?
Dans la confidentialité et surtout en respectant les processus disciplinaires.
Pardon
Christian, sur la question des micros, est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à la mise en place des micros ? Sous quelle forme ? Est-ce que des tests vont être effectués ? Quelle est tout simplement votre position et la position de la Fédération française de football ?
Alors, aujourd'hui, vous le savez, la FIFA, l'IFAB, interdit formellement les micros. Les micros, d'ailleurs, on a reçu encore une circulaire en septembre 2020 rappelant que la diffusion en direct des communications entre les arbitres était une infraction au protocole de l'assistance vidéo. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas ? Non, on ne peut pas.
On peut modifier le protocole.
Mais alors encore une fois, qu'un groupe de travail, qu'il y ait des réflexions qui soient menées...
Non mais la réflexion c'est une chose, mais le résultat c'en est une autre.
Oui, alors,
le protocole, un, peut se modifier, et deux, quand on voit ce qui se passe avec le rugby, on trouve ça forcément très épatant.
Par contre, ce qu'autorise la FIFA, complètement, et c'est ce que nous avons déjà eu l'occasion de faire, et autant que besoin nous le ferons,
les expériences,
a posteriori, partager l'audio à des fins pédagogiques. Ça, nous avons tout à fait la possibilité de diffuser des séquences, notamment pour mieux faire comprendre aux acteurs comment ça a été traité avec l'assistance vidéo. Voilà.
Mais le direct comme le rugby, c'est impossible en football ?
Il ne faut jamais dire impossible. Personnellement, j'ai arbitré la finale de la Coupe de la Ligue Nantes-Sochaux avec un micro ouvert. Ça faisait partie des expérimentations. Les arbitres, l'arbitrage n'ont rien à cacher. Maintenant, dans un contexte avec l'assistance vidéo, dans un contexte où, encore une fois, il faut être prudent dans ce qui est ouvert ou pas, afin de bien expliquer aux acteurs comment c'est managé. Aucune difficulté.
Il n'y aurait que des avantages. On comprendrait davantage les décisions de l'arbitre. Ça empêcherait les joueurs de dire tout et n'importe quoi et les entraîneurs de critiquer les arbitres. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, Jean-Michel Aulas semblerait tenter une petite accélération dans ce sens en convainquant la Fédération française, Noël Le Graët, votre confrère, M. Borghini, de convaincre les instances. Alors, attention, à la fois pour l'aspect pédagogique et pour rendre, et là c'est peut-être mettre un peu le pied sur la pédale de frein, pour rendre le football encore un peu plus spectaculaire. Attention au football popcorn.
Oui, tout à fait. Non, mais encore une fois, et puis surtout, il y a un élément que je tiens à dire, parce que les micros portés par les arbitres et la diffusion en direct, c'est un sujet qui est souvent abordé, et c'est normal avec le rugby, mais par contre, il y a un élément souvent qui est apporté, ça permettrait aux arbitres d'être mieux respectés. Je m'inscris en faux là-dessus. Il n'y a pas aujourd'hui un joueur qui profère une insulte qui n'est pas exclue. Et dans leur majorité, les joueurs respectent les arbitres, dans la majorité.
Une pause, 18h45, et ensuite on parlera du ou de la VAR, l'assistance vidéo. Mais d'abord, le Stade Saint-Symphorien, Metz-Paris-Saint-Germain, Dimitri Ramelot.
Le troisième but du Paris-Saint-Germain qui mène désormais 3-1, le pénalty transformé à la 88e à l'instant par Icardi qui a fait son entrée en jeu en cours de rencontre, une panenka pour Icardi qui permet donc au Paris-Saint-Germain de mener 3-1. Je signale la sortie sur blessure, a priori pas grave, mais on surveillera, de Mbappé quand même, Christian, c'est important.
18h46, après la pub, la vidéo. L'arbitrage vidéo, bien sûr.
Non. RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Notre invité en loge VIP, Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage français. À mes côtés, Baptiste Després, Le Figaro, Philippe Sansfourche pour RTL. L'arbitrage vidéo, Pascal Garibian. J'imagine que vous êtes venu avec des biscuits. Nous, on n'est pas convaincus. Admettez que l'arbitrage vidéo crée beaucoup plus de polémiques désormais, depuis qu'elle a été installée, que l'arbitrage classique qu'on a connu du temps de papa.
Alors d'abord, je vais rectifier un petit peu...
Je vous vois venir, ce n'est pas l'arbitrage vidéo.
Voilà, c'est de l'assistance vidéo.
Vous jouez, non, sur les mots. Vous jouez sur les mots.
Non, c'est toute la philosophie, cette correction illustre tout à fait la philosophie de l'assistance vidéo. L'assistance vidéo, les assistants vidéo derrière les écrans, ne sont pas là pour dire si la décision prise sur le terrain est la bonne. Ils sont là pour évaluer au regard des images si, sur le terrain, la décision initiale est clairement erronée. Aujourd'hui, les arbitres continuent à arbitrer en oubliant l'assistance vidéo. Les arbitres ont toujours le même objectif de prendre la bonne décision absolument. Et quand, par contre, derrière les écrans, les images peuvent démontrer de manière irréfutable à tout le monde, même aux non-spécialistes...
Ce qui n'est jamais le cas, ce qui n'est pas souvent le cas.
Que l'arbitre s'est trompé, la décision peut être corrigée.
Philippe Sansfourche.
Là, on est dans la psychologie. Mais on a quand même, avec le recul maintenant sur plusieurs années, le sentiment que la personnalité de l'arbitre s'est un peu effacée derrière la vidéo. C'est-à-dire que l'arbitre, en fait, arbitre, au contraire de ce que vous disiez, en fonction de la vidéo, en se disant je prends la décision qui me portera le moins préjudice, dans laquelle je prends le moins de risques possible.
Pas. Alors là, absolument pas. D'abord parce que, encore une fois, vous le savez, les arbitres sont évalués, tous les matchs sont analysés, eux-mêmes analysent leurs matchs. Et aujourd'hui, un arbitre qui prend une mauvaise décision, qui est corrigé par la VAR, il est évalué négativement comme s'il n'y avait pas la VAR. Donc il n'y a aucun intérêt pour un arbitre d'attendre, de compter sur l'assistance vidéo pour prendre des bonnes décisions. Un arbitre aujourd'hui qui attendrait l'assistance vidéo pour prendre les bonnes décisions n'a pas sa place en Ligue 1. C'est clair.
Enfin, ça arrive tous les week-ends parce qu'il y a
des arguments. Non, absolument
pas. Il n'attend pas, il prend l'initiative.
Alors, 75% des décisions clairement erronées ont été corrigées et nous sommes à moins 20% d'erreurs techniques initiales sans la VAR. C'est-à-dire que ça démontre que les arbitres se sont même améliorés puisque sur le terrain, il y a moins d'erreurs techniques.
Pascal Garibian, vous venez avec 75%, c'est votre chiffre. Mais parmi ces 75%, on sait très bien qu'il y a des décisions qui sont de toute façon sujettes à interprétation. Ce sont vos chiffres, en considérant que l'arbitre a eu raison de prendre une pareille décision. Mais vous, on le voit bien, pour le coup, on parlait non pas uniquement des réseaux sociaux, mais des observateurs. Il y a toujours sujet à interprétation sur pas mal de ces 75% que vous évoquez.
Non, écoutez, sur les 75%, c'est 75% pour nous de clairement corriger à raison. À raison. Nous sommes à 2,6 interventions par journée en moyenne sur 330 matchs. Voilà, je peux reprendre quelques chiffres. C'est quand même important. 26 buts modifiés sur la VAR sur 893. 19 buts accordés à tort ont été finalement annulés et 16 buts refusés à tort ont finalement été accordés. C'est important. Et puis je pourrais compléter aussi. 22 pénaltys qui ont été...
Mais aujourd'hui, je signale que le PSG a battu Metz 3-1, match terminé, débrief et réaction à 20h dans RTL Foot.
Par rapport à la vidéo, quels sont les axes d'amélioration prioritaires selon vous ?
Eh bien, depuis 3 ans, nos arbitres se sont... énormément amélioré, notamment sur les aspects process, sur cette philosophie de l'assistance vidéo. Parce que c'est pas évident, c'est difficile devant les écrans de pas réarbitrer. Et justement, c'est toute la difficulté, ne pas réarbitrer. Il y a des situations, Olivier, où techniquement, nous, dans la semaine, quand on analyse tous les matchs, on va très clairement dire à l'arbitre, ce n'était pas un pénalty attendu. Par contre, la VAR n'a pas envoyé les images à l'arbitre et nous sommes tout à fait en phase puisqu'il y avait une part d'interprétation.
D'accord. Prenons des exemples sans interprétation.
La VAR est là pour corriger ce qui est clairement erroné.
Vous estimez qu'elle est là pour corriger, mais elle ne corrige pas à bon escient. Prenons un exemple, parce qu'en temps radio, on ne peut pas visionner les images. Mbappé, Ligue des Champions, match retour, c'est un match européen, donc il est signalé hors-jeu, il marque, il va jusqu'au bout de son action, le but est refusé. Bah, il suffisait de regarder la vidéo pour voir qu'il n'était pas hors-jeu.
Non, mais là vous faites, vous évoquez une situation où l'assistant avait levé de manière trop rapide le drapeau.
Eh bien, et c'est donc pas grave.
Ah non, il y a un principe, c'est que quand le jeu est arrêté, on ne peut pas revenir.
Bah oui, mais il y a un autre principe. Il y a un autre principe, Pascal Garibian, qui affirme maintenant qu'il faut aller l'action aller jusqu'à son terme.
Mais là, malheureusement, l'assistant a levé de manière trop rapide son drapeau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux assistants d'avoir le focus sur la position de hors-jeu. Mais aujourd'hui, être en position de hors-jeu, ce n'est pas une faute. Ça devient une faute que lorsque le joueur a une part active. Et donc, les assistants laissent se dérouler pour laisser l'opportunité que le but soit marqué. Et tous les buts sont analysés. Et c'est ainsi qu'il y a quelques buts qui
donc
sont...
C'est une erreur. Et au risque de voir le joueur se blesser.
C'est une erreur technique et pas une erreur VAR.
Puisqu'on est sur ces questions du hors-jeu, on s'aperçoit que nos amis anglais, inventeurs du jeu, et qui ont réclamé à corps et à cri cette vidéo, sont aujourd'hui très circonspects sur son apport, et notamment sur les questions de hors-jeu. Parce que plus on a de caméras, plus on a de manière de pouvoir inspecter le jeu au millimètre près, et plus on s'aperçoit qu'il peut y avoir débat sur à quel moment le ballon sort du pied. À quel moment est-ce que le joueur est hors-jeu d'un millimètre ou de pas un millimètre ? Aujourd'hui, est-ce que la solution, ce qui se profile, c'est la solution technique, technologique ? Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est prête de pouvoir dire oui ou non avec certitude si un joueur est hors-jeu ?
Et j'ajoute que sur le révélateur, hier, quand Milik marque, son but est hors-jeu. Selon l'arbitre, but refusé, vous regardez le révélateur, il est de travers le révélateur. Est-ce que nous avons les mêmes images que celles qui sont diffusées dans le camion ?
Non, je doute que le révélateur soit de travers. Ce sont les lignes
La question de Philippe s'enfonche.
Question technologique. Parce que là, pour le coup, la goal line technologie, je crois que tout le monde est d'accord. Ça a été une vraie avancée. Voilà. C'est blanc, c'est noir, c'est rentré, c'est pas rentré. Est-ce que pour le hors-jeu, c'est possible ?
Leur jeu, il y a aujourd'hui une expérimentation sur la technologie pour déterminer si le joueur est en position de hors-jeu, mais encore une fois, il restera une part d'humain, puisque être en position de hors-jeu, ce n'est pas sanctionnable. Ce qui est sanctionnable, c'est si ce joueur prend une part active dans le jeu, en jouant le ballon.
Ça, c'est sur l'interprétation. Voilà. On est d'accord.
Oui, mais c'est important. Et les assistants vidéo sont aussi là. C'est pour ça que des fois, ça prend du temps. Si c'était qu'une question de technologie de ligne, ce serait assez simple, finalement.
Deux questions rapides. Est-ce que vous êtes favorable à l'ajout d'un ancien joueur professionnel dans le CAR pour une meilleure compréhension, une aide supplémentaire aux arbitres ?
Je viens de citer tout à l'heure Jérémy Sina. Jérémy Sina est l'arbitre sur le terrain, il arbitre VAR régulièrement.
Le hors-jeu rebaptisé. La deuxième question, Baptiste Després, c'était non ? Le hors-jeu rebaptisé, c'est Wenger, je crois, Arsène Wenger qui le suggère, c'est-à-dire que pour la Coupe du Monde au Qatar, eh bien, le hors-jeu sera systématiquement rebaptisé, signalé automatiquement.
Non, Arsène Wenger préconise une réflexion sur le hors-jeu et notamment sur le fait qu'au lieu de considérer que dès qu'un joueur est plus avancé que le ballon, excepté le bras, hein, mais toutes les autres parties, voilà, lui, il aimerait qu'on expérimente le fait que jusqu'à ce qu'une partie du corps de l'attaquant touche encore, soit dans l'alignement du défenseur, il ne soit pas considéré hors-jeu. Ça demande réflexion, ça peut être intéressant.
Un éclaircissement sur la main offensive. Ouais. Dès qu'il y a main, qu'elle soit volontaire évidemment, mais involontaire, désormais, but refusé ou pénalty à contrario quand c'est une main défensive.
Voilà, dès que le ballon a touché la main ou le bras et que nous sommes sur un but marqué ou sur une main qui a pu créer une occasion de but, il n'y a pas de part d'interprétation et la main doit être obligatoirement sanctionnée et le but annulé.
Et même si le ballon a touché d'abord une autre partie du corps, faut être clair.
Là, voilà, en phase offensive, où c'est plus compliqué, c'est sur l'interprétation sur les autres mains.
Question sur les risques liés aujourd'hui à l'explosion des paris en ligne et les possibilités de corruption. Est-ce que vous avez des signaux d'alerte ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de tentatives de corruption de l'arbitrage ? Là, je ne parle pas au niveau français, parce qu'on sait que c'est assez limité. Mais globalement, mondialement, est-ce que c'est un vrai danger, l'arbitrage et les paris en ligne ?
D'ailleurs, en partenariat avec la LFP, il y a eu des interventions justement sur cette thématique, parce que personne n'est à l'abri, même si aujourd'hui nous sommes fiers d'être arbitres français et nous n'avons jamais été concernés par des affaires de corruption. Il y a, moi depuis 40 ans que je suis de football, il n'y a jamais eu de tentative de la part vers un arbitre français, mais personne n'est à l'abri au regard de effectivement ce que vous décrivez. Il y a une sensibilisation de nos arbitres et surtout pas que du haut niveau, parce qu'on le sait que ça touche aussi les niveaux inférieurs.
Question courte, réponse courte. Combien gagne un arbitre ?
Alors, un arbitre touche un fixe par mois de 6500 et puis après, c'est 3500 par match de Ligue 1 pour un arbitre central.
Les arbitres bruts, bien sûr, ont refusé une baisse de salaire dans les négociations liées à la pandémie, non ? Oui ?
Non, mais ça, il n'y a jamais eu une négociation aujourd'hui concernant la baisse des revenus des arbitres.
Des arbitres contactés pour participer au nouveau produit Ligue Europe des clubs Super League ?
Non.
Personne n'a été contacté. Et si des arbitres avaient été contactés ?
Écoutez, on va pas faire du football fiction, mais voilà. Non, aujourd'hui, les arbitres français sont attachés à évoluer en Ligue 1 et évoluer dans les grandes compétitions internationales.
Le temps passe trop vite, Pascal Garibian. Une petite demi-heure pour éclaircir quelques points très précis, mais je suis certain que vous reviendrez dans un espace peut-être un peu plus encore confortable afin d'expliquer de façon pédago l'arbitrage français.
Tout à fait, avec plaisir.
Merci à vous, en tout cas, de nous avoir rendu visite et à très bientôt. Et une pensée également à tous les arbitres amateurs qui, pour l'instant, sont au chômage technique.
C'est pour ça que la vitrine du football, on doit respecter les arbitres.
Merci Pascal Garibian, merci à vous tous. Derrière les infos, on fait le match, le débat, les informations après la publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match dans la joie et la bonne humeur avec les débats cette fois-ci après Pascal Garibian. Et c'était dans la joie et la bonne humeur, mais c'est trop court. C'est trop court, Philippe Sanfourche, Baptiste Després. Ça va trop vite. Mais l'invitation est lancée, je le dis à la concurrence. Pascal Garibian viendra à l'aube de la nouvelle saison de football.
Ah, vous l'avez cornaqué, là.
Sur une heure et demie.
Eh ben.
voilà. Le rendez-vous est fait.
Il n'est plus consultant RTL,
non ? Non, il n'est plus consultant, mais il viendra nous éclairer sur éventuellement les nouvelles dispositions, etc.
On a essayé de l'acheter, mais on n'a pas réussi.
Il est incorruptible, Pascal Garibian.
On a des montres RTL, pourtant.
Bonsoir. Bah, celui que vous entendez, c'est Florian Gazan.
Bonsoir
Florian Gazan. Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Gilles Verdez également, le procureur.
Bonsoir.
Et Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont fait le match.
Bonsoir.
Bonsoir, Cindy. Vous avez pu entendre quelques bribes d'intervention de Pascal Garibian. On aurait voulu creuser un peu plus sur l'arbitrage vidéo. Bon, même s'il ne veut pas appeler ça l'arbitrage vidéo, mais il est dans son rôle. Il est dans son rôle.
J'aurais bien aimé qu'il nous parle un peu, moi aussi, de la transparence de l'arbitrage, comment ils sont évalués, notés, parce qu'il y a toute une sorte de serpent de mer, de mystère par rapport à ça. Et je trouve que plus de transparence par moment nous aiderait à mieux comprendre comment ça fonctionne l'arbitrage.
Ouais, on ne va pas faire une conférence non plus à Clairefontaine sur l'arbitrage, comment ça se
passe. Non, pas mettre des micros sur le terrain, c'est pas pour en mettre dans les commissions d'évaluation.
C'est bien dommage.
Gilles Verdez.
Moi, j'ai bien aimé quand il a parlé de Stéphanie Frappart, parce que j'étais un peu comme vous. Je trouve qu'elle a été rudoyée, malmenée. Et, j'avais besoin qu'il nous soutienne fortement notre arbitre au féminin. Voilà, et ça m'a plu.
Pour moi, il n'y a pas eu du sexisme dans ces matchs, mais effectivement, j'ai été ravie qu'on parle de l'arbitrage et de Stéphanie Frappart, qui a été, à mon sens, complètement OK par rapport à tout son match, mais qui quand même, c'est vrai que quand on voit une femme des petites tailles entourée comme ça par des joueurs, voilà, c'était quand même... j'aurais plus aimé avoir son avis par rapport à ces points-là, mais je trouve que c'est bien l'effet qu'ils défendent aussi tout ce qu'ils ont pu accomplir, parce que maintenant on a maintenant on a dans les compétitions des arbitres français de plus en plus, comme Clément Tourpin, comme Stéphanie Frappart, donc je pense que son bilan est plutôt pas mal.
Bon, les amis, on va parler football. Le football court-il à sa... L'arbitrage, c'est du football, bien sûr. Le football court-il à sa perte ? Alors, avec deux gros événements, évidemment, cette semaine, la Super League. Est-ce que c'est un super bide ? C'est la question que je vous poserai. Mais attention. Super bide pour l'instant, peut-être. Et pour l'instant seulement. Et puis, là, c'est une actualité encore un peu plus chaude, un peu plus récente. Les Girondins de Bordeaux qui sont désormais lâchés par King Street, l'actionnaire américain. Les Girondins de Bordeaux, désormais dans les mains du tribunal de commerce. Et donc, ce sera ma première question. Les Girondins de Bordeaux vont-ils être rayés de la carte du football français ? Je fais d'abord un premier tour de table et on essaiera de voir quelles sont les possibilités. Je pense qu'il y en a quatre pour voir où Bordeaux disparaître ou Bordeaux tenter de survivre, de surnager. Florian Gazan.
Il faut que Bordeaux survive. Je pense que c'est déjà en train de se mettre en route et qu'il y a déjà des plans de reprise. Mais après, Il y a un tel passif, c'est tellement compliqué, mais ce club ne peut pas mourir. On parlait la semaine dernière de la vente de Saint-Etienne, c'est des clubs historiques, il faut tout faire, c'est des chefs-d'œuvre en péril, il faut les préserver.
On avait parlé des monuments, du monument de la Saint-Etienne, on avait mis en perspective les Girondins de Bordeaux une semaine plus tard. Gilles Verdez.
Moi, je pense que le Bordeaux tel qu'on le connaît, il est mort là. Ce sera un autre Bordeaux. Alors, on parle effectivement de reprise sur un mode régional avec des gens du cru, je n'y crois pas du tout. Je pense que l'idéal pour Bordeaux serait de repartir dans une division inférieure et de recréer l'âme bordelaise.
Cindy Colmenares.
Non, je pense que la situation est scandaleuse. Je pense que les joueurs, heureusement qu'ils n'étaient pas à Bordeaux en ces moments, qu'ils étaient en déplacement, parce que sinon ça aurait été vraiment la catastrophe de se prendre toute cette situation qui doit énormément les affecter. Je pense que Bordeaux doit continuer à se battre, notamment demain, gagner ses matchs et en tout cas essayer au moins de faire un bon match en Ligue 1, de continuer malgré la situation.
À 15h contre Lorient, Baptiste Després.
Non, Bordeaux ne va pas mourir, on l'a dit, c'est un club attrayant, c'est un club historique, c'est une région quand même qui plaît pour les potentiels investisseurs. Donc non, peut-être retour en Ligue 2 ou étage inférieur, sinon en Ligue 1, mais c'est un club qui reste quand même ultra séduisant.
Retour en Ligue 2, Philippe Sanfourche, n'allait déjà pas mourir ?
Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du côté émotionnel du départ de l'actionnaire principal, il y a un bilan qu'elle a, c'est-à-dire avec un club qui bouffe des millions d'euros, des dizaines de millions, et on sera peut-être même à des centaines en fin de saison, il n'y a pas de joueurs à vendre. Pour l'instant, on le déplore, mais pas de billetterie. Et de toute façon, ils en faisaient très peu avec ce nouveau stade. Donc, il y a tout à repenser au niveau de Bordeaux. Et le diagnostic, il est terrible. C'était un club qui était à la croisée des chemins, qui était déjà en difficulté, mais qui a été enterré par un système. On va y revenir peut-être un peu plus tard, mais je crois que cette saison aura ça de terrible, mais en même temps d'éclairant, parce que parfois, il faut se mettre les mains sur la plaque pour savoir que ça chauffe et que ça brûle. C'est que de Mediapro à la Super League, en passant par les fonds d'investissement américains, tout ce que l'on craignait est arrivé cette saison.
Et ils sont encore endettés. Il faut qu'ils payent leurs créances, parce qu'après, c'est là qu'ils vont pouvoir essayer éventuellement d'acheter.
Il faut que ça serve de leçon. Ouais. C'est alors, un cancer pour le football.
Quatre scénarios possibles, dont trois concernent le dépôt de bilan. Premier scénario, dépôt de bilan dans les prochains jours. Rétrogradation et 15 points d'enlever aux Girondins de Bordeaux. Deuxième hypothèse, dépôt de bilan, fin de saison directement en Ligue 2. Troisième hypothèse, dépôt de bilan, acheteur qui reprend les dettes, mais 15 points là aussi de pénalité. En fait, dans mon premier scénario, je ne suis pas sûr qu'il y ait 15 points. Mais ce sont les points obtenus par les équipes adversaires des Girondins de Bordeaux qui seront supprimé à ses adversaires. Donc il va falloir refaire le calcul du championnat. Le scénario, c'est le quatrième, c'est le meilleur pour la fin, le plus optimiste, un repreneur tout de suite et avec une reprise de l'activité, mais il va falloir éponger les pertes qui sont évaluées entre 50 et 80 millions d'euros.
Oui, et puis surtout, quel repreneur ? Parce qu'on se plaignait, beaucoup se sont plaints de la gestion d'M6 pendant des années. Et finalement, la gestion d'M6, c'était une gestion, moi, que j'appréciais parce qu'elle était à la bordelaise. Et on voit que cette gestion d'M6, qualifiée parfois de gestion à papa, elle a permis au club d'avoir une pérennité financière. Et quand on a voulu faire de Bordeaux autre chose, c'était plus Bordeaux. Et Bordeaux s'est tué. Donc là, moi, je pense qu'il faut retrouver l'esprit bordelais. Et cet esprit bordelais, il passe, selon moi, effectivement, par un dépôt de bilan, Ligue 2, et là, vous reconstruisez. Si vous continuez sur ce schéma-là, là, avec des repreneurs qui me paraissent fantaisistes, ça va nous remener à une nouvelle catastrophe.
À l'époque de M6, propriétaire de RTL, qui nous permet de nous exprimer ce soir dans Fait le match, il y a eu deux trous, deux pertes qui ont été compensées. Mais depuis 2017-18, au moment de l'achat par King Street, eh bien, la masse salariale, notamment, je ne donne que cet exemple-là, est passée de 49 à 70 millions. Et on a fait venir Koscielny à 400 000 euros par mois. Est-ce bien raisonnable ?
Il y a une méconnaissance totale de l'infrastructure économique, financière et de ce qui fait le football. Moi, deux choses me reviennent en tête. Ces gens-là sont arrivés à quel moment ? Ils sont arrivés au moment où il y a eu la perspective Mediapro, c'est-à-dire de savoir que chaque année allait rentrer tant 40, 50 millions d'euros, quoi qu'il arrive. La mode du trading joueur, sans savoir à aucun moment si les centres de formation, Bordeaux n'a pas sorti un joueur de qualité internationale depuis 15 ans.
Ça, donc, c'est dramatique.
Un autre exemple, quand les Américains sont arrivés, la première réflexion qu'ils ont faite, c'est de se dire, mais comment ça ? Il n'y a que deux magasins pour vendre des maillots dans Bordeaux ? J'en veux 10, j'en veux 15. C'est-à-dire que méconnaissance totale du marché. On plaque un modèle américain et qu'on vient essayer d'appliquer à Bordeaux.
Surtout que, rappelons-nous qu'il y avait deux investisseurs. Il y en a un qui était déjà parti en courant, donc ça sentait pas très bon. Le problème de Bordeaux, de toute façon, c'est que c'est Bordeaux, mais c'est plus les Girondins. Le centre de formation qui a quand même été, qui a sorti des joueurs extraordinaires, Alain Giresse évidemment, il n'y a plus de joueurs qui sortent. Ce stade, on nous a fait ce nouveau stade qui est une aberration absolument totale. Il n'y a plus rien en fait qui fonctionne dans ce club et tout, en fait, c'est une sorte de domino, clac, 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 et là, le dernier vient de tomber, quoi.
Faut que ça serve d'avertissement pour tout le football français, hein. C'est-à-dire que ces aventures, cavalerie presque, eh bien, ça mène au drame. Et si on continue comme ça, c'est tout le football français par effet de domino, sauf certains clubs qui risquent de basculer vers des dépôts de bilan, des disparitions.
Et après, on s'étonne qu'il y ait...
Non, c'est Nicole Ménares.
Après, on s'étonne que les supporters aussi commencent à s'échauffer à chaque fois qu'il y a des repreneurs, parce qu'effectivement, certains ne connaissent pas, en fait, ni les pays, ni la situation, ni la Ligue 1. C'est juste qu'ils arrivent pour l'argent, pour les marketing, et ça donne ça.
Ça aurait été des saucissons, ça aurait été pareil. Ils s'en foutaient. C'était du foot, mais ça aurait pu être des saucissons. Souvenons-nous que quand ils sont arrivés, ils ont dit on est là pour aller peut-être 5 à 10 ans. Non, mais vous voyez la perspective un petit peu d'investissement et d'avenir.
Et le saucisson a meilleur goût que les résultats.
Non, mais j'aurais pu dire de la lessive ou du dentifrice.
Avec le Bordeaux, c'est bon.
Baptiste Després.
Mais c'était exactement ça, finalement. Le sportif n'était pas au centre du projet. Et quand le sportif n'est pas au centre du projet pour un club de foot, c'est quand même un peu enquiquinant. Et derrière, quand vous voyez ce qu'ils veulent mettre en place, on ne savait pas déjà qui présidait, en dehors de Frédéric Longuepée, très bien, mais on ne savait pas au niveau des propriétaires qui gérait quoi, qui mettait l'argent. C'est un vrai problème. Et ce problème-là, Gilles a raison. Il faut se poser les bonnes questions au sein du football français pour, je ne sais pas, mettre en place des sortes de garde-fous, faire attention aussi à la Ligue qui accueillait quand même à bras ouverts ses propriétaires américains. Donc c'est un vrai souci et ça doit poser quand même une vraie remise en question du football français.
19h15, on va marquer une page de publicité, on refait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 20h, 23h, toute l'équipe d'Éric Silvestro et de Xavier Domergue pour notamment, mais pas seulement, décrypter du match de 17h qui a vu la victoire du PSG à Metz 3 buts à 1, qui a vu le succès également de Brest à Saint-Étienne 2 buts à 1. Il y aura bien d'autres choses également dans RTL Foot. Derrière la publicité, la transition est toute trouvée. Après la déconfiture bordelaise, oula, la déconfiture de la Super League. Super League, super vide, mais pour combien de temps encore? Il y a un peu de...
Malice.
Allez, oui, de malice, merci.
Le verre est toujours dans le fruit.
Allez,
bien dans le fruit.
C'est parti.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match avec Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Baptiste Després, Florian Gazan, Philippe Sanfourche. Ce soir, on a parlé avec Pascal Garibian de l'arbitrage français entre 18h30 et 19h. On vient d'évoquer la situation peu reluisante des Girondins de Bordeaux avant de parler de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, avant les tirs au but également. La Super League, super bide, mais pour combien de temps encore? Alors, je ne sais pas si on doit rappeler, ce serait un peu long, tout ce qui s'est passé, mais tout ce qui a finalement, tout ce qui s'est annulé en moins de 48
capoté
heures. 12 clubs dissidents parmi les meilleurs clubs européens qui veulent créer une ligue fermée, récupérer encore un peu plus et un peu plus d'argent et une opposition. Alors une opposition politique, une opposition d'entraîneurs, une opposition d'anciens joueurs, de consultants et une opposition populaire qui est peut-être même, de mon point de vue, un peu surdimensionnée. Odoxa, RTL, Winamax, nous rejoint Émile Leclerc, directeur d'études à Odoxa. Bonsoir Émile.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Les Français ont été, sondés sur cette Super League. C'est un rejet massif dans l'opinion et chez les amateurs de foot et chez les Français de court.
Oui, très large, hein. 75% des Français, 75% des amateurs de football et même 80% des fans de football, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent beaucoup au football. C'est important de préciser que ce sondage a été réalisé mercredi et jeudi, c'est-à-dire au lendemain du retrait des 6 clubs anglais et puis au fur et à mesure il y a eu d'autres clubs qui sont partis, donc c'est effectivement comme vous le dites un rejet massif. Et pire encore pour la Super League, on les avait déjà interrogés les Français il y a 3 ans sur ce projet de ligue fermée et à l'époque il y avait quand même plus de 40% des amateurs de football qui se disaient favorables au principe. Donc là c'est moins 17 points chez les amateurs de football et moins 25 points chez les fans de football, donc il y a un vrai rejet de ce principe, ça n'a pas du tout été accepté dans l'opinion.
Égoïste à 80%, injuste à 76%, dangereuse à 74% et épisode destructeur également pour l'image des 12 clubs fondateurs de cette Super League, Super Bide.
C'est ça, 76% des amateurs de football nous disent que l'image de ces 12 clubs s'est dégradée à leurs yeux. Par contre, il y a des gagnants, hein, notamment le PSG et le Bayern Munich, 77% d'amélioration de l'image, les supporters aussi, les joueurs et les entraîneurs, et l'UEFA qui, en général, n'a pas une très bonne image. Eh bien, tous les acteurs, à l'exception des 12 fondateurs, en fait, sont gagnants dans cette crise.
Dernier point, Émile Leclerc, et pas le moins intéressant, les amateurs de football sont persuadés que ce type de projet reviendra sur le tapis.
C'est ça, c'est un serpent de mer. Ça fait quand même 30 ans qu'on parle de ce projet. À chaque fois, c'était une menace. Là, ça a été une menace mise à exécution. Il pense que ça reviendra, sans doute à raison, parce que Florentino Pérez l'a dit lui-même. Hein, il compte bien mener à bien ce projet. Maintenant, on peut quand même se dire que la claque a été colossale et qu'il va falloir revoir le projet largement pour que ça puisse passer. Ils vont sans doute y réfléchir à plusieurs fois avant de reproposer à nouveau ce type de projet de ligue fermée, parce qu'on a vu que l'opposition était massive, sans doute plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer.
D'autres informations, d'autres chiffres dans ce sondage très intéressant Winamax, RTL et Odoxa à 9h demain matin. Merci beaucoup Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. C'est la question prioritaire. Ce projet reviendra forcément sur le tapis. Le timing, la Ligue des Champions, les demi-finales, l'Euro à venir, la Coupe du Monde organisée par le Qatar qui est un diffuseur incontournable. Comment les clubs en question, présidés par des gens extrêmement intelligents, ont pu imaginer que ce projet allait passer à ce moment très précis?
C'est le propos d'un putsch. Quand vous tentez un putsch, vous ne choisissez pas toujours le bon moment. Vous vous sentez armé et vous foncez.
Un putsch réussi, si, quand même, tu choisis le bon moment.
Oui, mais pour moi, ce putsch n'est pas raté. Pour moi, ce putsch n'est pas raté. Pour moi, ça va revenir. Pour moi, c'était une diversion, une opération qui leur coûtera un peu d'argent, mais pas trop. Et ce n'est pas une déroute, c'est une reculade tactique. Et quand on lit la presse allemande qui décrypte tout, on voit que la seule vraie raison, elle est économique. Pourquoi le PSG n'y est pas allé? C'est parce que le Qatar ne voulait pas de l'argent qui, vraisemblablement, selon la presse allemande qui est bien informée, vient d'Arabie Saoudite. Ce n'est pas le mécontentement populaire. Donc, je pourrais prendre tous les clubs. Tous les clubs ont une raison économique d'avoir dit non. Mais la prochaine fois, ils diront oui.
Alors, pourquoi le PSG ne voulait pas y aller? Pour la raison évoquée par Gilles Verdez. Pourquoi City s'est retiré? Parce que, effectivement, les Émirats Arabes Unis, actionnaires de
Abu Dhabi, oui, c'est particulièrement Abu Dhabi, actionnaire de City, a dit.
On d'un mauvais voilà. Oeil, effectivement, ouais. L'Arabie Saoudite.
Et tout comme la situation est proche. Il y a ça, il y a aussi d'un point de vue politique pour le Qatar, le fait d'être à quelques encablures de la Coupe du Monde, donc d'être resté en lien avec les instances internationales. Le Qatar investit dans le football pour faire du soft power, donc pour être dans une image positive internationale, donc de ne pas être associé à ces bisbilles, à ces conflits d'argent, c'était aussi ça. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le Qatar, le PSG n'a pas besoin d'argent. Or, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a accéléré le processus? C'est que des entités, même qui ont gagné 3, 4 Ligues des Champions dans les années qui viennent de s'écouler, comme le Real Madrid ou comme Liverpool, sont exsangues, mais... parce qu'en fait, on est dans un modèle où il y a trop d'argent, il y a trop de circulation d'argent et il n'y a pas de sécurisation en fait des fonds et des investissements.
Après, on ne va pas être hypocrite, il y avait 12 clubs et il y avait 3 places. On se doute bien que si ça avait vraiment bien démarré et pris cette affaire, le Bayern et le PSG qui ont envie aussi de jouer contre les plus grands clubs parce que leurs joueurs veulent jouer contre les plus grands clubs, ils auraient fini par y aller. Il ne faut pas non plus être béni oui-oui.
Mais je suis d'accord avec Gilles sur le côté où finalement, je ne suis pas sûr que les 12 salopards, comme on les a surnommés cette semaine, notamment certains, que ce soit Florentino Pérez, Agnelli a quand même pris un sacré coup quand même sur la caboche. Mais ce que je veux dire, c'est que Florentino Pérez, ils persistent et signent, et derrière, s'ils ne sont pas rentrés par la porte, ils vont le faire par la fenêtre parce qu'ils ont besoin de plus d'argent. Et on l'a vu avec l'UEFA qui commence déjà à se dire on va valoriser encore un peu plus la Ligue des Champions. Quand même, quand on entend sur Odoxa le sondage sur la bonne image de l'UEFA qui s'en sort bien, on peut parler quand même de la future réforme en 2024 de la Ligue des Champions.
Et l'un n'empêche pas l'autre, cher Baptiste.
Mais non.
N'empêche pas l'autre.
Mais du coup, le chevalier blanc, c'est un peu facile.
On va y venir sur l'UEFA, c'est Nicole
Ménard. Pour moi, ça va forcément revenir parce que les futurs ressemblent beaucoup parfois au passé. Et en fait, on l'a déjà vu en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des Football Leagues avec tous ces clubs, avec l'International Champions Cup, où ils voulaient tous se mettre d'accord pour faire également une ligue fermée. À l'époque, l'UEFA, il y avait eu des négociations, des pressions, et donc c'est là où ils viennent les places, les fameuses places, les 4 places, pour des équipes comme de chaque pays, comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre. Donc voilà, c'est un peu peu un jeu de pression, un rapport de pression. Et cette fois, il est vrai qu'il y a des têtes qui sont tombées, mais c'est pas pour autant qu'ils vont arrêter les
Gilles Vernez.
Pérez, il est très malin au Real Madrid. Il a dit j'ai pas ma Super League, vous n'aurez pas Mbappé. Et vous allez voir qu'il prépare très intelligemment l'opinion publique madrilène en disant mais vous voulez des joueurs, vous voulez que le Real reste le Real.
Non, mais on voit une deuxième erreur de communication.
Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout.
Dire vous n'aurez pas la Super League, vous n'aurez pas. Mais ça ne concerne que les supporters du Real Madrid. Point. Voilà.
C'est les seuls qui l'intéressent, lui. Bon, il est en train de.
Mais, mais qui reste sans Mbappé,
mais il vient d'être réélu, Christian.
Mais donc il a besoin d'un soir. Là, vous faites une erreur terrible.
Il vient d'être réélu justement sur un projet qui est celui qui a toujours été celui du Real Madrid, c'est-à-dire des étoiles dans les yeux et d'expliquer aux gens qu'il est toujours possible de rêver, comme dans le monde d'avant, sauf que dans le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, il n'est plus pareil. Donc il ne permet plus au Real Madrid de pérenniser les rêves qui ont été vendus. Donc il faut trouver une nouvelle formule. Donc c'est la course à l'échalote.
Donc vous m'expliquez que du Real Madrid qui ne peut pas avoir la Super League parce qu'il n'aura pas donc Mbappé ou plutôt le contraire, les 11 autres clubs se sont laissés embarquer également.
Mais chacun a ses raisons. Pérez, c'est la tête
de pont. Mais
lui, il prépare l'avenir. Il dit vous voulez des galactiques, vous ne les aurez que dans
donc
une Super League.
Les 11 autres clubs ont fait preuve de naïveté, de stupidité.
Mais les autres sont dans la même logique que celle qu'on expliquait à une échelle moindre pour les Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire que Liverpool, Manchester United sont dirigés par des actionnaires américains qui n'ont qu'un modèle en tête, c'est le modèle de franchise à l'américaine. Parce que quand vous investissez 100 millions, 200 millions d'euros par an, vous voulez un retour sur investissement. Plus l'investissement est important, plus il faut le sécuriser. La sécurisation des investissements, c'est ce que veulent les Anglo-Saxons. Et en fait, les seuls qui sont un tout petit peu honnêtes dans cette histoire, ce sont les Allemands. C'est le Bayern Munich. Parce que le modèle allemand, il est fait, par exemple, du fait qu'on ne peut pas plus de 50% livrer le capital à un investisseur étranger. Déjà. Donc les Allemands, en fait, ils sécurisent par rapport à leur produit, la Bundesliga, qui sera toujours la primeur de l'intérêt du supporter allemand.
Baptiste Desprez.
Mais ce qui fait peur dans la vision du monde d'après de Florentino Pérez, parmi toutes les déclarations qu'il a pu faire durant la semaine, il veut par exemple raccourcir les matchs. Il dit les jeunes n'aiment pas trop le football en ce moment, donc pourquoi pas raccourcir
ballon carré aussi, comme ça ce sera plus marrant.
Mais c'est un problème. Et quand il dit on veut des Rafael Nadal, Roger Federer toutes les semaines, mais non, on veut pas des Real de Madrid, Liverpool tous les mardis et mercredis.
Raccourcir
mercredi.
Les matchs, il a craqué.
Mais les jeunes, encore une fois, vous croyez comme ça que Pérez il va dire n'importe quoi.
Tu crois que les jeunes, parce que le match va durer 80 minutes, va venir davantage.
Les jeunes ne regardent plus le football.
Tu éduques ton jeune pour lui dire qu'un match a duré 90 minutes. Et deux,
excusez-moi, il ne vous écoute plus. Vous n'êtes pas un bon éducateur, il ne vous écoute plus.
Il ne regarde plus jamais un match de football, il regarde autre chose.
Les jeunes, ils regardent autre chose, ils veulent des modèles courts, ils veulent de la vidéo, c'est l'avenir. Pérez le sait, il dit il faut changer le football. Je change le football.
Mais donc on fait quoi? On fait 3 fois 20 minutes, Gilles? Qu'est-ce qu'on fait?
Derrière la publicité, on va parler de cette génération zapping absolument insupportable.
Scandale.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match, l'heure est grave et l'époque est désespérante. Dans ce studio, Philippe Ménarès, Gilles Verdez, Baptiste Després, Florian Gazan, Philippe Sanfourche. Pour Gilles Verdez, il faut à la fois raccourcir les matchs et déplorer qu'on n'ait pas de Super League pour ne pas voir enfin jouer Mbappé au Real Madrid.
C'est un peu schématique, mais
okay, boomer.
Tout est schématique dans la vie, cher Gilles. C'est comme cela que vous nous avez expliqué les choses.
Non, d'accord. Mais Christian, Agnelli, vous avez déjà sorti le coup de vendre les droits des 5 dernières minutes aussi. Ça, c'était extraordinaire, le président de la Juve.
Nous avons un exemple en Amérique du Sud, parce que j'ai l'impression que Florentino Pérez a fait exactement la même qu'a fait le président des Boca Juniors, qui s'appelle Angelici.
Il dure combien de temps les matchs en Amérique du Sud?
Non, pas par rapport à ça.
Il dure 80 minutes.
En fait, et ce qui s'est passé, c'est qu'en Amérique du Sud, ils ont déjà essayé de faire la même chose, mais on ne l'a pas appelé la Super League, on l'a appelé la Ligue Sud-Américaine. Ça a été également un flop, sauf qu'eux, ils ont quand même réussi à faire venir 40 clubs de toute la zone de l'Amérique du Sud. Donc, il y en avait des Flamingos, il y en avait vraiment des Boca, des River, vraiment les meilleurs clubs de l'Amérique du Sud. Et pourquoi? Toujours les mêmes raisons, en fait. C'était pour des droits télé, c'était pour l'argent, toujours les mêmes choses. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé Angelici tout seul. Ce qui se passe aujourd'hui, finalement, avec Florentino Pérez. Mmh. Et ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé par la suite. D'ailleurs, même quand il y a eu la finale Boca-River, la Libertadores, tout de suite, les supporters et puis les présidents du club ont essayé d'encore mettre la pression pour essayer d'encore de dire qu'ils peuvent encore faire sécession. En fait, c'est toujours ces pressions-là. Pour moi, ce n'est qu'un rapport de force. Il n'y avait rien de concret derrière.
Alors, il y a deux choses quand même que je voudrais évoquer avec vous, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est le supposé lobbying des supporters anglais, notamment, et puis le rôle de l'UEFA dans tout cela. Alors, moi, je veux bien les supporters anglais, gros plan serré sur une manifestation de supporters de Manchester qui sont contre l'actionnaire américain, pareil pour Liverpool, etc., etc. Moi, je veux bien tout ça, mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? D'abord, premier point. Deuxième chose, est-ce que ces supporters-là ne sont-ils pas heureux de voir leur club gagner, que l'actionnaire soit américain, anglais ou panaméen? Et évidemment, là, c'est l'occasion rêvée pour ces supporters anglais d'aller dézinguer Glazer et compagnie. Mais quand le club Manchester gagne, on n'entend plus personne.
Non, si, quand même. Quand même, Christian, parce que depuis maintenant 15-20 ans, le peuple qui aimait le football... c'est désinvesti, désengagé déjà de ces clubs-là. Manchester United, aujourd'hui, vous allez voir un match, vous allez voir que des Japonais dans le stade. Il n'y a finalement plus d'Anglais, de souches qui sortent du pub un peu rouge là et qui viennent
voir
leur match.
La raison, Philippe, vous la connaissez, la raison, Philippe?
Mais la raison, elle est très simple, c'est que parce qu'à
un moment
donné...
Le prix des billets.
Ah oui. Le prix des billets. Pourquoi le prix des billets?
Il a fallu lutter contre le hooliganisme. Oui, mais... Et ça a été une manière de faire une ségrégation par l'argent. Et aujourd'hui, elle a été assumée, sauf qu'elle a éloigné le peuple du football. Oui, mais... Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les jeunes regardent moins de football? C'est pas parce qu'ils aiment pas le jeu, c'est pas parce qu'ils aiment pas ce produit qui, s'il est livré tel qu'il était dans son essence, il est transgénérationnel. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des gamins qui sont jamais allés au stade parce qu'ils peuvent pas aller au stade. Parce que pour être à Arsenal, pour avoir son abonnement annuel à Arsenal, il faut débourser pour la pire place dans le stade 1 500 € par an.
Oui, mais alors, attends.
Donc c'est pas possible.
Mais
en
même
fait.
Va plus loin, qu'ils peuvent pas le regarder à la télévision.
Et en plus, ils peuvent plus le regarder à la télévision. Donc ça, forcément, il y a un désintérêt
malheureusement.
Oui, du fait qu'on est lié bien avec le football.
Le point de départ, la pierre angulaire, ce sont les drames successifs quand même qu'ont connus les supporters des clubs anglais. Et donc il a fallu, parce qu'il y avait quand même de larges beuveries également dans les tribunes des stades, et il a fallu quand même régenter, réglementer.
Oui, on a confondu comportement et porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il fallait mettre que des bourgeois argentés pour être certain qu'il n'y ait pas de problème dans les stades. Aujourd'hui,
moi, j'ai
on a
détesté,
le résultat.
Ça m'a offusqué. C'est l'effet qu'on dise, voilà, il n'y a pas de Super League, c'est le football romantique qui a gagné. Moi, je suis désolée, mais si le football romantique a gagné, alors pourquoi on a ces formats en 2024, parce qu'on ne l'a pas évoqué,
on va
en parler. Beaucoup
c'est
plus
juste qu'on
matchs,
est passé à côté du drame, et on a un demi-drame à la place.
Enfin, c'est la peste et le choléra, quoi. Donc on a éradiqué la peste, maintenant il faut s'attaquer au choléra.
Et la VAR, ça vient de qui a mis en place la VAR? Non, mais enfin, faut aussi les dire, parce que j'aime pas...
Moi, je suis pas d'accord avec le terme la peste et le choléra. La peste, oui, dans ce format, dans ce nouveau format proposé, mais enfin, le choléra, non. L'UEFA, effectivement...
Bah, vous l'avez vu, la nouvelle formule, Christian, comme moi.
Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas cette scission totale, mais où d'un seul coup, 12 ou 15 privilégiés décident qu'il y a eux et le reste du monde.
Ça, c'est la peste plus le choléra.
Oui, mais enfin, on a quand même donc plus de matchs à jouer, donc les joueurs, on s'en fout. On va avoir cette idée de deux places qu'on réservera à des clubs qui sont pas qualifiés par la compétition, mais qui pourront faire la Ligue des Champions parce qu'ils ont un niveau UEFA très élevé. Donc il y a quand même des bribes de Super League dans cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions.
Mais ils l'ont fait pour ça. Mais ils l'ont fait. En fait, c'est ça qui est drôle. Cette réforme, elle vient comme par le passé, parce que quand l'UEFA se sent sous pression, elle va venir un peu essayer de faire des choses, des moyennés pour essayer de
réussir. On le saurait si l'UEFA était une coopérative. On le saurait.
Mais on va dire une coopérative. Mais quand vous regardez, si vous mettez côte à côte les projets de Super League, que vous mettez côte à côte les nouveaux projets des Ligues des Champions 2024, mis à part les côtés fermés qui vraiment niaient la compétitivité et la méritocratie, c'est très similaire.
Gilles Verbez.
Après, pour revenir une seconde sur ce que vous disiez à propos du poids du peuple pour ce renoncement de la Super League, moi je suis sur votre ligne, Christian. Pour moi, le peuple, c'est bidon. C'est une manière pour les clubs de faire accepter ça. Mais en fait, quand vous prenez l'exemple de Chelsea, encore une fois, on revient à la presse allemande. Si M. Poutine n'avait pas téléphoné à M. Abramovich, le président de Chelsea, en lui disant « Dis donc, tu vas mollo avec ta Super League. Moi, je suis Gazprom et Gazprom, c'est l'UEFA, sponsor, etc. » Donc, tu sors de là, Abramovich, il n'aurait pas tenu compte de la pression populaire.
Ce qu'ont sous-estimé nos amis de la Super League, c'est effectivement la puissance de frappe de l'UEFA et de la FIFA pour alerter les politiques. Haut niveau.
Bien sûr.
Et on est tous bien placés pour le savoir, puisque lorsque, au niveau français, on a été alerté de ce qui allait se produire dans la journée de dimanche dernier, la plupart de nos informateurs étaient en lien avec le football, bien entendu, mais aussi très proches des pouvoirs politiques. Et ça n'est pas un hasard si, alors que c'est quand même fou, c'est-à-dire que l'Élysée,
le dimanche
après-midi, un communiqué officiel.
Le dimanche après-midi.
sur une formule et sur une Super League qui n'existait pas encore.
Et Boris Johnson,
puisqu'en fait, le communiqué Super League est tombé quasiment à minuit. Donc, dès la fin d'après-midi, un dimanche, en pleine pandémie,
en plein Drucker,
l'Élysée fait un communiqué. Donc, c'était éminemment politique.
Baptiste, mais pour revenir sur la comparaison entre la Super League et ce qui va être proposé avec la mouture de la Ligue des Champions 2024, on a quand même l'impression que l'UEFA a inventé un monstre. Quand on voit derrière cette... On vous dit, non, c'est pas une Super League fermée. Effectivement, dans les faits, c'est pas le cas. Mais comme le disait Philippe, il faudra être vigilant parce que on s'y engouffre. Exactement.
Oui, j'ai... Après, quand on présente l'UEFA comme le chevalier blanc,
alors voilà,
le sauveur de notre football, là,
c'est risible.
L'UEFA et les édiles qui sont à la tête de cette institution ne pensent qu'à l'argent, sont obsédés par leur réélection et l'argent. Donc effectivement, ils tentent de trouver un compromis qu'ils espèrent historique, mais qui pour moi est bancal. Avec,
tout est compromis dans la vie, cher Gilles.
Oui, mais celui-là est bancal. Les compromis doivent satisfaire les deux parties et présager un avenir meilleur.
C'est une compétition qu'on peut laisser perdurer dans un contexte quand même acceptable pour tout le monde.
Mais c'est
pour
pas les acceptable gros clubs ça. Besoin... C'est pas acceptable parce que c'est hybride, je dirais même c'est bâtard.
De toute façon, il n'a pas été acté encore.
Ça ne peut pas passer. C'est une fausse Super League et c'est une fausse Ligue des Champions.
Mais Gilles, quand vous évoquez effectivement l'image de chevalier blanc de l'UEFA, on peut dire la même chose pour le Paris Saint-Germain, pour Nasser Al-Khelaifi. C'est exactement la même chose. S'il n'y est pas allé, c'est une histoire aussi avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est pas uniquement de se dire moi je suis en retraite, tout ça, ça m'intéresse.
La loyauté. Moi, je pense que vraiment Florentino Pérez, déjà, c'est aussi l'intelligence. Pourquoi il n'a pas allé, celui du PSG? Parce que c'est l'intelligence de se dire, c'est les mauvais timings. Tu as vu quand même la situation.
Il n'y a pas que ça.
A dit très bien, il a très bien exprimé et résumé pourquoi ils ne sont pas allés. C'est aussi, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est parce que c'est un temps, il y a quand même le Covid, il y a une pandémie où on parle plutôt des solidarités.
Alors, il y a peut-être
le Bayern a de quoi voir venir, alors que le Real n'a plus quoi voir venir. Hein.
Voilà. Peut-être que ces clubs-là.
Il n'y a plus rien à manger. Ils sont exsangues,
peuvent acheter Mbappé, d'accord.
Non, ils auraient accepté Mbappé avec la Super League Super Bid. Oui, sur les réseaux sociaux, émissions filmées, interactives, le compte @RTL Foot, Baptiste Durieux, qu'on salue, les débats ont tellement été animés.
Bah oui, bon,
avec
Gary
Bian, Pascal de son prénom, bonsoir, Baptiste. 18h30, et avec vous depuis 19h. On n'a pas encore eu le temps de saluer Baptiste Durieux.
C'est un immense plaisir. Bonsoir à tous. Effectivement, beaucoup de messages sur la Super League. Axel nous dit les grands penseurs et initiateurs de cette Super League ont tout compris. Ils ont mis sur la table quelque chose d'affreux pour nous faire accepter une version 2.0 un peu plus soft dans un an qui nous paraîtra du coup plus juste. C'est un piège, nous dit Axel. Message de William également. C'est dommage que plein d'acteurs décident et réinventent le football en permanence, mais que jamais les entraîneurs et les joueurs ne soient sondés. Ils se plaignent justement d'un trop grand nombre de matchs et la rareté, c'est la vie. Elle est là. La solution. Johan nous dit un problème d'argent pour les présidents de club, point d'interrogation, mais les salaires qui explosent, c'est eux. Le prix des transferts absurdes et lunaires, c'est eux. Les commissions d'agents, c'est eux. Les gouffres financiers que représentent certaines recrues, c'est eux aussi. Il est là le problème. Et message d'Étienne qui est assez drôle. Donc, sous prétexte que mon petit cousin a du mal à rester assis sur son canapé pendant 90 minutes, on doit tout changer. On est chez des fous. Rendons le foot accessible et moins cher avant de changer la durée.
C'est le neveu d'Yves Verdez.
On parle d'éducation.
Par apprendre à vos neveux et petits cousins, cher Gilles, qu'un match de foot dure 90 minutes.
Excusez-moi, mais quant aux Jeux Olympiques que vous chérissez, on a introduit le breakdance et l'escalade parce que ça dure 2 minutes et que ça va plaire aux jeunes. Je vous ai pas entendu, vous ai crié oh là là, scandale, et etc.
C'est de la démagogie, c'est insulter la jeunesse.
Je vous ai pas entendu crier.
Vous, l'homme de l'intégration. Des quartiers.
Dès que ça vous arrange.
Mais le breakdown, mais c'est formidable.
Ça vous arrange, donc c'est bon.
Qu'est-ce que ça m'arrange?
Mais c'est court.
C'est vous qui défendez cette chose.
C'est moi
qui défends le breakdance.
Moi, je lance parce que c'était court.
Gilles va lancer une super ligue de breakdance. Vous l'annoncez.
Au contraire, vous exposez des disciplines sportives, car le breakdance est un vrai sport.
Ah bah voilà, moi ça me gêne pas, mais vous devriez vous dire oh là là, 2 minutes 30, scandale, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, vous êtes logique.
Allez, on change de débat.
Pourquoi est-ce que c'est un sport? Vive le breakdance.
Bah alors, faites du foot plus court, ouais, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Si vous êtes passé à côté.
Vous avez un argumentaire totalement bidon.
Mais c'est débile sur le breakdance, ça fait 2 minutes 30, ça dure combien de temps à 100 mètres
hein. On parlait le breakdance et un match de foot qui dure 90 minutes. Enfin, soyez sérieux, Gilles. La publicité, et on parlera un peu Ligue 1 avant les tirs au but, bien sûr. Les tirs au but, Gilles, les tirs au but.
Ah là là, attention les faibles, il y en a beaucoup aujourd'hui.
Publicité. RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Restez avec nous encore une bonne quinzaine de minutes d'On refait le match et ensuite RTL Foot à partir de 20h et jusqu'à 23h. Dans ce studio, Cindy Colmenar et Gilles Verdez, Baptiste Després, Florian Gazan et Philippe Sanfourche. Avant les tirs au but, un mot quand même sur la Ligue 1 qui sera largement développée hein, à partir de 20h. Les résultats de l'après-midi, la victoire de Brest à Saint-Étienne de buts à 1, doublé de Gaëtan Charbonnier qui était un peu dans le dur, Charbonnier. Là, il revient bien avec ce doublé dont un but sur pénalty de mémoire. Sont les Verts qui avaient ouvert le score grâce à Cazeri et le match de 17h, le PSG qui est allé gagner à Metz sur le score de 3 buts à 1. Au classement général provisoire, messieurs, le PSG reprend les commandes avec 2 points d'avance sur Lille et beaucoup plus sur Monaco et Lyon. Pas de blessés au PSG ?
Ah si, on l'a dit, petite alerte pour Kylian Mbappé, manifestement un coup, donc il va falloir suivre tout ça de très près.
À 4 jours de City,
bon, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de précautions, ça c'est pour l'aspect négatif, pour l'aspect positif, on voit quand même un Paris Saint-Germain qui maîtrise désormais ses matchs, son calendrier, que ce soit contre Angers il y a 4 jours en Coupe de France ou aujourd'hui un but marqué dans les 10 premières minutes qui permet déjà de respirer. Et ensuite, on voit un banc aussi qui est intéressant. Icardi, 5 buts en 3 matchs avec des bribes de match. Kylian Mbappé, encore un doublé. On a l'impression que dès qu'il touche le ballon, c'est quasiment but à chaque fois. Les signaux sont quand même globalement ouverts.
Vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui, Icardi, enfin, c'est aussi important. Marquinhos qui sera éventuellement dans l'effectif. Il a repris l'entraînement selon les Parisiens, donc tout va mieux pour lui. Et Verratti qui est en très bonne position en ce moment. Il a fait un super match. Et Icardi, donc il a fait une panenka, mais il y a quand même quelques rumeurs. Il y avait quelques rumeurs des départs de Icardi, mais je me suis renseignée cet après-midi. En tout cas, son agent dit que c'est totalement faux. Mais voilà, c'est toujours les mêmes rumeurs avant la Champions League, là, on est habitué.
Bémolisons quand même un tout petit peu. Paris avait ouvert le score très vite. Ils se sont fait quand même rattraper par Metz un partout. Et après, il faut que Mbappé en mette un petit coup, comme contre Saint-Etienne la semaine dernière, où ça passe vraiment, vraiment à rien. Heureusement qu'en ce moment, il y a Mbappé. On a vraiment l'impression que lui, il a la haine de la défaite et qu'il entraîne tout le monde et il fait quand même la différence.
Mais on est presque étonné de voir le Paris Saint-Germain se diriger comme ça vers Manchester City, peu de monde à l'infirmerie, voire plus du tout, pas de suspendu, pas de Neymar à l'infirmerie aussi, donc là honnêtement tous les signaux sont ouverts. Alors après c'est peut-être un peu trop d'optimisme aussi, c'est peut-être pas ce qu'il leur faut, mais en tout cas ça rend optimiste pour mercredi.
Exactement.
Le meilleur joueur du monde aujourd'hui c'est Kylian Mbappé, hein. Il réussit tout ce qu'il entreprend, il est formidable, c'est le catalyseur de son équipe, c'est le meilleur joueur du monde. Il atteint une dimension incroyable, incroyable, plus fort que jamais.
J'ai une question dans les tirs au but sur Mbappé, mais qui lancera également les débats de RTL Foot à partir de 20h.
Après, juste pour revenir sur ce que tu dis, Florian Gasson, c'est vrai qu'il y a eu cette période, cette deuxième période où Metz a commencé un peu plus à accélérer, donc ça a été plus difficile pour les Parisiens, mais je trouve que dans la globalité, ils ont fait un très bon match.
Ils jouent ces matchs à 40%.
Mais oui, c'est la gestion.
Pour qu'il n'y ait pas de blessés. Pour qu'ils assurent soit la qualification en Coupe de France, soit les 3 points pour rester dans la course au titre, ça s'arrête là. Sinon, tout est focalisé sur une seule chose, le double rendez-vous face à Manchester City.
Parlez-moi quelques instants du match entre Lyon et Lille. Ce sera l'affiche de cette journée. Ce sera dimanche soir sur RTL à partir de 20h. Lille est à 2 points du Paris Saint-Germain. Lyon est à 5 points du Paris Saint-Germain. Qui a le plus à perdre ? Lyon, évidemment.
Non.
Lyon pour l'Europe.
Lille est en passe de devenir champion de France face au Paris Saint-Germain. Et Lille a quelque part écorné sa petite avance. Lille est en grand danger à Lyon. Si Lille perd ou si Lille fait match nul, le Paris Saint-Germain reste en tête. Donc l'exploit surdimensionnel d'aller chercher un titre face au Paris Saint-Germain, il est en danger. Si Lille parvient à gagner, Lille aura fait un grand pas vers peut-être ce titre de champion.
Et quand on voit, pardon Florian, le calendrier du Paris Saint-Germain, je regardais la semaine, enfin après c'est Lens, c'est Rennes, Reims et Brest. Enfin honnêtement, on voit pas le Paris Saint-Germain flancher. Pour Lille demain, c'est vraiment le soir ou jamais.
Oula, les Paris Saint-Germain parfois appelés la Champions League.
Mais pas ce PSG là.
C'est vrai qu'ils sont très très bons et très bons collectivement.
Et n'oublions pas Monaco qui est en pleine bourre et qui joue aussi demain à Angers. Donc on a vu que les équipes qui ont plus rien à jouer en championnat baissent un peu le pied. Donc attention Monégasque.
Je vous donne le classement. Le PSG 72 points, Lille 70 points, Monaco 68 points et Lyon 67 points. Cet après-midi, Brest est allé gagner à Saint-Étienne de Buzyn. Brest est quasiment sauvé.
Ah oui.
Saint-Étienne
Saint-Étienne, bon, ça, c'est 5 journées, ça va le faire, mais oui. Il est temps que le championnat se termine.
Et à noter quand même Brest sauvé en jouant au football. C'est, non, mais honnêtement, quand, non, mais quand on, non, mais quand on les voit tous les week-ends.
Ah, il veut faire plaisir au chef.
Non, mais très franchement, oh, quand on voit Dalloglio, qui est quand même un entraîneur voilà. ultra intéressant.
Olivier Dalloglio, la patte voilà. Olivier.
La patte Olivier.
Mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Stade Brestois 29, la patte Olivier Dalloglio. Il va être convoité. Ouais. Hein,
ils sont prêts pour la Super League, Brest.
Brest.
La Super League de l'Ouest.
Reste dans la rade. 19h48, c'est bien cela. Hein, oui, la pub et puis les tirs au but. Les tirs au but à 12 minutes maintenant de la fin. On refait le match. À tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, les tirs au but, les plus forts l'emportent, les plus faibles sont éjectés. Avec toujours la question Ligue 2, vous le savez, j'essaye de vous intéresser depuis le début de la saison au championnat de France de Ligue 2, c'est de mieux en mieux. Et j'ai du mal, hein. on a tout fait. Les entraîneurs, les statistiques, les présidents, le côté économique. Là, une question footix. Ok, donc pour ceux qui footix, là vraiment, c'est une question pour voilà, hein, pour apprendre le football. La Ligue 2, vous savez que 3 a battu
3
Grenoble.
3-1.
Ouais.
3-1.
Ouais.
3-1.
Ouais. Excusez-moi de vous la prendre, question.
3-1.
Vous intéressez à la Ligue 2, je
j'ai
crois.
J'ai une question sur la Ligue 2. Estac. Qu'est-ce que ça veut dire, Estac?
Laurent Batchès.
Non, éliminé des prêts, il fallait attendre le coup de sifflet, peu importe.
Alors, en temps sportif, 3 Aube Champagne. Ouais.
3 Aube Champagne. J'ai dit Estac, Florian Gazan. Bah, éliminé.
Entente sportive, 3 Aube Champagne.
Ah, entente.
Oui, entente.
Ah, ben oui.
Entente sportive, 3 Aube Champagne. Bah, je vais retourner chez l'orthophoniste.
Oui, oui, je pense. Ou alors. Voilà. Bravo, un point. On va dire des points maintenant. Pour,
ah, d'accord. Voilà.
Un
ah.
point pour Florian Gazan, je note.
Bravo.
C'était facile quand même, franchement.
Oui, bon, enfin, bah, ouais. c'est facile.
Ah,
il fallait
limites.
Mettre le ballon au fond. Voilà.
Une question qui va susciter.
On fait étape de multiplication.
Une question. Une question. Écoutez-moi. Une question qui va susciter un débat dans RTL Foot. Je ne dis pas l'heure, comme ça les auditeurs, dès 20h, devront être à l'écoute et jusqu'à 23h. On a parlé d'Mbappé tout à l'heure. Mbappé est-il, écoutez bien l'intitulé de la question, Mbappé est-il le grand favori pour le prochain Ballon d'Or?
Oui.
Éliminé.
Oui. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Il est sans rival sur la planète foot. Les autres s'effondrent, ou blessés, ou quasiment en retraite, ou partis les uns après les autres. Donc pour moi, il en reste deux, c'est Mbappé ou De Bruyne, et prime à l'attaquant, donc Mbappé.
Bah, De Bruyne n'est pas tout à fait un défenseur non plus.
Non,
il joue pas
mais
dans
c'est
les
un
buts
milieu.
Également.
Je dis prime à l'attaquant. Je réponds clairement à votre question.
Non, les
grand favori
à la limite. Non, mais là,
non, malade
non.
au mauvais moment, Mbappé blessé,
ou
fini,
et
puis... terminé. Et puis il y a l'euro, hein. Il y a l'euro qui vient sanctionner.
Oui, parce que vous dites oui, mais vous n'attendez pas la finale de la Ligue des Champions.
Et qu'est-ce que vous voulez que j'attende?
Et éventuellement, bah,
vous voulez que j'attende quoi? La superstar
le dénouement,
est devant
moi.
Et je fermerai les yeux jusqu'à ce que les échéances passent. Non, non. Ah, vous, oui, vous posez la question, boum.
Et par défaut, ça n'existe pas de poser cette question-là. On peut pas Mbappé par défaut.
Par défaut, Mbappé mais pas du tout. Mbappé, non, non. Au grand joueur, les grandes récompenses.
Même
Mbappé,
si le championnat de Ligue 1 a moins de visibilité que la première Ligue anglaise avec
non,
De Bruyne.
Il marque à Barcelone,
il marque
oui.
partout. Oui.
D'accord,
non.
mais enfin, il a marqué à Barcelone, oui. c'est pas sur un match que tu as le ballon d'or. Enfin,
je pas, non, c'est justement, c'est pas sur un match.
Sur un seul match. Souvent sur un seul match. Demandez à Van Basten.
Alors attends, oui, sur un seul match qui te permet de gagner un trophée.
Oui, si vous voulez.
Mbappé a fait qu'on s'intéresse à la Ligue 1. Honnêtement, parce qu'à l'étranger, on parle de la Ligue 1 parce qu'on dit « Ah oui, il y a Mbappé, vraiment
ouais, !»
Je vous l'ai dit en tant que sud-américaine.
Sur la Ligue 1, enfin, c'est, que ce
et
soit
Neymar,
en Chine ou ailleurs.
Autres,
mais,
elle existe bon. Du fait que ces deux joueurs sont là, oui, effectivement.
C'était pour vous donner un peu d'appétit et l'envie d'écouter
ah, oui.
un foot, car
ah,
le débat
s'annonce oui. ah,
chaud. Je le dis aux auditeurs, ils aiment bien entrer dans les coulisses de la préparation des émissions. C'est une conversation qui était extrêmement chaude au bureau tout à l'heure, cet après-midi, avec Silvestro, Domer, Castaldi, Vasselin, Durieux, Raymond Abou. Nous tous qui sommes là. Donc, voilà.
On a fait intervenir parce qu'il y a
un avec la question, faut-il déjà donner le ballon d'or à Kylian Mbappé?
José Mourinho viré de Tottenham. On a fait des petits calculs et j'ai vérifié. C'est pas la première fois qu'il est viré quand même
non,
hein, d'un
non.
club.
On va parler argent.
Il a pris 90 millions d'euros d'indemnité partout où il est passé et partout où il a été viré. C'est choquant ou c'est la vie?
C'est la vie, c'est les footballs.
Vous non, avez mordu sur le sifflet. Hein,
c'est
allez. C'est la vie, c'est le football.
Non, c'est la vie, c'est les footballs. Et puis, n'oublions pas aussi pourquoi à chaque fois ça lui réussit. Bah, parce qu'à chaque fois qu'il quitte un club, il part toujours avec une grande classe. Il ne se permet jamais d'être un détracteur de ses, du dit club.
Heureusement, quand même.
Non, mais ça aide. Donc, en fait, à la fin, il a toujours une bonne image. Il passe partout. Il apporte quand même des résultats. Mais voilà, il a une bonne image.
On parlait tout à l'heure des régulations du foot, que ce soit au niveau du salaire, au niveau des transferts, c'est que la résultante de tout ça, et Mourinho en profite.
Ouais. On peut pas à la fois faire le constat que le football va dans le mur parce qu'il génère beaucoup trop de dépenses et que le modèle économique ne fonctionne plus, et être en accord avec cela. Parce que Mourinho, pourquoi ça coûte aussi cher? C'est parce qu'il y a son image à lui, mais c'est aussi chaque année, on a l'impression qu'il y a 5 personnes de plus dans les staffs des entraîneurs. Les mecs arrivent avec 25 personnes désormais. Ça n'est plus possible.
Alors là, tu es dans le sens de Rummenigge par rapport au projet des ligues, des Super League, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il fallait vraiment revoir les structures des coûts. Et moi, je pense qu'effectivement, si on veut vraiment avancer dans la Champions League, et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît très bien en football, il faut revoir cette structure avec les salaires des joueurs, des entraîneurs, faire tout ce genre de choses.
Et Cindy, par rapport à ton romantisme sur Mourinho, s'il est très classe quand il part,
c'est généralement
qu'il y a des clauses dans le contrat qui font que s'il dit du mal, il touchera pas ses sous.
Ah,
non, mais les présidents qui lui concèdent de tels avantages sont des incapables. C'est eux qui ruinent le football. Franchement, non, mais c'est complètement grotesque de faire signer des contrats pour plusieurs années parce que Mourinho l'exige et de savoir qu'on va virer Mourinho parce qu'au bout d'un moment, c'est incompatible. Et tout le monde le savait à Tottenham. Donc ces présidents-là ruinent le football.
C'est le business des entraîneurs et des sélectionneurs.
Et Nantes, alors,
c'est insupportable.
C'est ce monde-là qu'il faut changer.
Et si on parlait des Nantes, alors, parce qu'on va le voir très loin.
À notre petit niveau, on fait la même chose.
Bah voilà.
Avec le FC Nantes.
On critique le FC Nantes, voilà. Il y en a plein qui se sont remplis les poches en sachant qu'ils arrivent et qu'ils allaient partir.
Mais rappelez-vous des invités de départ de Laurent Blanc, c'était pareil. On parlait de 15 à 20 millions d'euros. Donc finalement, il y a Mourinho, mais il y a tous les autres.
Bah, rappelez-vous des indemnités également de Raymond Domenech.
Ben voilà, c'est j'ai pas voulu dire.
Pourquoi? Il faut le dire, 900 000 euros qu'il avait re-signé, que l'aventure s'est mal terminée avec l'équipe de France de football.
Lui et d'autres.
Je parlais de Domenech en équipe de France de football.
Non, moi je parle au FC Nantes. En fait, il y a tellement des passages au FC Nantes, on s'est dit à la fin à chaque fois avec des grosses indemnités. Alors bon. On dirait qu'ils y vont pour ça aussi.
Retour à Marseille. Et retour de Dimitri Payet à presque son meilleur niveau. Est-ce qu'il a encore une carte à jouer pour le prochain Euro avec l'équipe de France?
Oui.
Non, c'est terminé.
Non, non, mais pour une fois que je respecte les temps...
Pour une fois, vous avez égalisé tout à l'heure. Un point pour Verbez.
C'était limite.
Pour
Dimitri Payet, c'est terminé. Vous voulez qu'il prenne la place de qui pour l'Euro? Ça fait des mois qu'il n'est plus en équipe de France. Honnêtement, c'est un joueur tout sauf régulier. S'il est appelé en équipe de France, c'est pour être sur le banc. Il n'a pas la mentalité pour être dans un groupe pendant 8 semaines. Donc non, Dimitri Payet à l'Euro, non.
Moi, j'ai pas
impossible.
Voulu. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on le voit souvent comme un joueur fini. On voit que quand il est dans un projet qui est cohérent avec vraiment un coach qui le fait encore réveiller ses qualités qu'il a, même si c'est certes irrégulier.
C'est surtout qu'on est à deux mois de la fin de saison.
Et il en donne. Pour moi, il n'est pas fini.
Il y a une question que j'aurais pu poser, c'est voyez-vous l'effet Sampaoli? Et là, on doit dire...
Il est plus mince. Non, mais je suis désolée.
L'effet Sampaoli à Marseille.
On peut ajouter un truc sur le débat précédent, là, sur le fait de l'Euro. Parce
Non, mais vous réveillez.
Non, juste une chose. C'est parce que ce qui a été dit des deux côtés est intéressant. Sur le papier, quand on connaît le mode de fonctionnement de Didier Deschamps, la liste qu'on a vue là, s'il n'y a pas de blessure, normalement, c'est terminé, il n'y a pas de débat. Sauf que on se dirige quand même probablement vers un système de sélection de liste élargie qui peut donner peut-être une chance à des joueurs, les fameux joueurs en pleine forme sur les trois semaines, derniers mois avant la liste. Et comme Dimitri Payet a toujours donné satisfaction à Didier Deschamps en sélection, et souvenez-vous qu'il avait raté à la dernière compétition du fait d'avoir joué la finale avec l'OM et qu'il s'était blessé et que ça l'avait condamné.
Donc dans la liste élargie,
je ne dirais pas qu'à 100% c'est mort.
Dans la liste élargie, prenons Benzema.
Les amis, Rumi Vallière avec le Paris Saint-Germain, Monaco et Montpellier en demi-finale de la Coupe de France de football. Le tirage aura lieu dimanche soir, ce sera d'ailleurs sur RTL. Vous le voyez le problème ou vous ne le voyez pas, Gilles Verdez?
Alors pas du tout. Magnifique comportement d'un club de niveau modeste mais cohérent. Voilà le vrai football à la française, c'est fantastique ce dernier carré.
Tout le monde est d'accord? On a dit que le football amateur n'existait plus, n'existait pas, ne s'entendait pas. Et finalement, Rumi Vallière arrive en demi-finale.
Avec l'honneur de la France.
Bah oui, pas la Ligue des Champions.
Mais c'est la magie de la Coupe de France.
Pourquoi vouloir chercher des poules?
Je pose la question.
C'est très bien. C'est très bien, c'est l'échantillon.
Il est l'heure de nous quitter. Merci Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football RTL. Merci Florian Gazan. La grosse cote notamment, chaque samedi matin à 8h. Le podcast Ah ouais et les grosses 15h30 tous les jours, vous saluerez Laurent Ruquier qui adore le football d'ailleurs.
Ah, complètement. Il
merci
tout
Baptiste Després pour le merci Figaro, merci Gilles Verdez, merci. Le procureur, et Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont refait le match.
Merci
à vous tous.
À 20h, RTL Foot, Silvestro, Domergue, Castaldi, Vasselin, Abou, ça va plus vite sans les prénoms. Restez avec nous, évidemment, tout au long de cette soirée. Très bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
RTL, on refait le match.